Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Denis Cugnot qui nous parle de son nouvel album de musique klezmer, 40 ans de klezmer et d'amitié, dédicace, qui vient de paraître chez Bouddha Musique, Soka Disc. Bonsoir Denis.
Bonsoir Sandrine.
Alors pour commencer, normalement, on écoute un de vos titres, Sirba de Leville. C'est une première, Denis, dans cette émission que de vous recevoir et c'est un véritable plaisir. Alors on va dire quelques mots rapidement pour vous présenter. Vous pouvez ajouter des choses si vous le souhaitez. Alors comment vous présenter, sinon de dire que vous êtes pianiste et l'un des initiateurs en France du renouveau de la musique klezmer. Vous avez sorti de nombreux albums et votre discographie s'ancre dans le répertoire klezmer essentiellement que vous réinterprétez seul ou avec vos complices au sein de plusieurs formations. Il y a eu le duo avec le clarinettiste Nano Pelé, la création du groupe L'Orient Express Moving Schnorrer, le duo avec Yom, puis le Yacht, Yiddish Atmospheric Touch avec Bruno Girard, ou le duo avec David Konopnicki. Alors, on peut dire aussi que vous accompagnez régulièrement ou à l'occasion des chanteuses yiddish, parmi lesquelles Michelle Tauber, Tamara Mielnik, Jacinta, Milena Katorski, que vous avez reçu plusieurs prix et que votre répertoire, c'est le klezmer essentiellement. Alors, la musique klezmer, qu'est-ce que c'est hein? Eh bien, on le sait, c'est tout un pan du patrimoine culturel et de l'histoire des Juifs d'Europe centrale et orientale, à qui, et c'est ça peut-être votre particularité, vous redonnez une actualité. En revisitant ce répertoire fondé sur des traditions musicales et de chants, qui avaient été globalement délaissées en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, eh bien vous contribuez à la fois à le transmettre et en même temps à l'enraciner dans un répertoire classique universel. Qu'est-ce que c'est, Denis, la saveur du klezmer pour vous? Pourquoi cet intérêt pour ce registre?
Effectivement, c'est intime. C'est intime. Il y a vraiment d'abord la mémoire des poètes et des musiciens assassinés. Hein. Mais c'est une musique qui déjà n'a jamais existé en France. Hein. Quand elle a existé, puisqu'elle existait de façon assez peu importante, donc en Europe orientale, en Europe de l'Est, pour diverses raisons, on est en train de créer un mythe, comme s'il y avait une continuité sur des siècles de musiciens ambulants, de saltimbanques, dits les klezmorim. C'est pas aussi précis que ça. Mais moi, c'est vraiment, effectivement, le rapport à la mémoire, à la disparition de cette culture yiddish. Et dans cette culture yiddish, il y avait la musique instrumentale dite klezmer.
Alors, c'est peut-être un de vos chevaux de bataille aussi, de parler de cette absence de continuité, et ce n'est pas le cas aux États-Unis.
Mais je ne suis pas complètement d'accord, parce que aux États-Unis, clairement, il y a les immigrants, donc la grande vague d'immigration, je dirais de 1895 à 1914 à peu près. Là, il y a des musiciens qui viennent de l'Est. Mais par exemple, un des plus grands musiciens dont on a la discographie klezmer aux États-Unis, David Tarachuk, dit Dev Taras, à Ellis Island, on lui pique sa clarinette et pendant 3 ans, il est dans les ateliers clandestins de couture et il oublie complètement qu'il est musicien. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans les premiers enregistrements, entre 1905 et 1925, il y a environ 700 titres de musique qu'on peut appeler klezmer qui sont enregistrés. Sauf que dès 1930, ça ne plaît plus du tout, y compris la communauté juive américaine. Le primat, ça devient la comédie musicale, ça devient Broadway, le vaudeville, ça devient la chanson yiddish, très enjouée. Et cette musique purement instrumentale, elle disparaît. Et c'est les gens de ma génération aux États-Unis, à partir de 1975, qui vont faire ce qu'on appelle le revival, ou plutôt, on pourrait appeler la revitalization de cette musique à partir des 700 disques retrouvés. Mais aux États-Unis, il y a eu aussi une coupure totale, et les gens de ma génération qui ne sont pas musiciens, aux États-Unis, quand j'y rencontre, ils disent non, on savait qu'il y avait deux choses, il y avait la chanson yiddish et les chants de la synagogue, les chants synagogo, mais jamais entendu parler ni du mot klezmer, ni de la musique. Donc en fait, non, c'est ça qui est intéressant, Sandrine, vous qui êtes historienne, c'est-à-dire, vous savez comment les mythes peuvent se propager, et moi je dis que l'absence, en citant Roland Barthes, mais en faisant un pas de côté, l'absence d'histoire, puisque là c'était des musiques de tradition orale plus la destruction, l'absence d'histoire est très propice à la diffusion des mythes. Et donc il y a un mythe qu'il aurait existé une musique klezmer. Voilà. C'est beaucoup... on n'a pas le temps, et puis c'est effectivement ça, c'est un cheval de bataille que j'aime, mais ce qui m'intéresse, c'est que maintenant elle existe. C'est ça qui est fascinant, à partir de mythes, de réinventions, d'imaginaires chez des musiciens. Non seulement elle existe, mais portée dans le monde entier par des musiciens très souvent non-juifs. Comme je dis toujours, il y a des fanfares klezmer au Japon, enfin voilà. Et donc ils ont les yeux bridés et ils chantent à les brideurs d'ailleurs. Quel jeu de mots idiot, excusez-moi Sandrine, d'être aussi bête.
Et on voilà. Vous l'autorise.
Merci. Non mais voilà, donc en fait, c'est ça. Donc c'est pour ça que quand je fais une conférence une fois par an, mes conférences s'appellent « Du mythe, des mythes à la réalité ». Voilà.
Alors, on termine sur ce dossier historique, c'est que vous êtes un musicien, mais vous êtes aussi en quelque sorte un historien du klezmer. Vous avez été chercher dans des sources, dans des archives. Est-ce que c'était avant, en même temps, ou après avoir commencé à produire de la musique sur ce registre?
Non, c'était pendant après, mais c'était effectivement au moment où j'ai commencé à entendre les Américains raconter, d'après moi, d'abord s'accaparer cette musique, et surtout de la jouer sans l'émotion européenne, sans l'émotion des Juifs d'Europe. C'est-à-dire ce côté divertissement, c'est-à-dire dès qu'il y a cette revitalisation aux États-Unis, c'est la fête, voilà, il ne s'est rien passé, on s'amuse, on fait des farandoles, on danse. Donc ça, c'est émotionnellement où je n'ai pas été d'accord, parce que mon klezmer et mon yiddish, sans la langue, mais la langue musicale, il rappelle cette ambivalence, au meilleur des cas, entre... une certaine gaieté et une infinie douleur. Et donc, en fait, non, c'est ça. Je me suis retrouvé avec des Américains qui se sont accaparés le mot et en expliquant que tout venait d'eux et que donc c'est une fusion entre les musiques yiddish de l'Est et le jazz et qui se sont mis à raconter n'importe quoi. Et comme on se retrouve, parce que là, on va reparler de mes partenaires, j'ai la chance incroyable que tous mes partenaires clarinettistes sur trois générations, en quelque sorte, entre Nano Pelen, ma génération, le jeune Guillaume, on a 27 ans et demi d'écart, avec qui on a quand même travaillé 10 ans ensemble, tous les deux, et ensuite en quartet, leur idole, comme moi, c'est Gheorghe Feldman. C'est-à-dire Gheorghe Feldman, mon juif argentin, quand il a fait tout le renouveau des musiques klezmer, il l'a fait avec une infinie tendresse et une infinie subtilité romantique, je dirais, Sandrine. Et justement, les Américains le détestent. Donc en fait, ce qui s'est passé, moi je suis pas un ethnomusicologue, parce que non pas que ça me plairait pas, mais j'ai pas le temps, j'étais directeur de conservatoire, j'étais plus dans la pédagogie et les politiques culturelles, la démocratisation des enseignements artistiques. Mais c'est sûr que je me suis retrouvé avec tellement de mythes qui m'énervaient, parce que non pas en tant que mythe, c'est parce que ça débouchait sur des interprétations beaucoup trop joyeuses, entre guillemets, à mon goût, et je dirais assez trop profane d'une certaine façon, non pas que la musique klezmer, elle est profane par nature, c'est des mauvais garçons, c'est des saltimbanques de rue, c'est une insulte hein, dans les communautés juives des Shtetler, de traiter quelqu'un de klezmer, ça veut dire qu'il est voleur et qu'il joue très mal. Hein, faut voir que maintenant ça devient une sorte de label de type conservatoire, un musicien klezmer, mais c'est quand même, et les klezmorim eux-mêmes avaient l'argot, le klezmerloschen, qui était un argot, comme le louchébem, l'argot des bouchers, qui était vraiment extrêmement vulgaire, très misogyne, évidemment. Donc, en gros, c'est quand même des pouilleux qui savent pas jouer, qui jouent faux. Alors, voilà, mais c'est émouvant, parce que la plupart des musiciens klezmer, leurs enfants, même dans les ghettos et tout, ils ont été au conservatoire, après. Donc, ils sont devenus des grands violonistes classiques, universalistes. Voilà ce que les Américains peuvent pas comprendre. Donc, en fait, j'ai pas le temps. Et puis, il y a très peu de sources, vous qui êtes historienne, vous savez, il y a très peu de sources à revisiter, parce qu'il y a ces centaines d'enregistrements, mais c'est pas beaucoup des centaines d'enregistrements, parce que c'était des 78 tours, donc ça fait 2 minutes la phase. Bon. Donc on a ça, on a la librairie nationale américaine, on a énormément de chansons yiddish, mais des milliers, on a tout sur le yiddish. Mais sur la musique instrumentale, on n'a pas grand-chose, et c'est surtout... on a les 1200 rouleaux qui ont été retrouvés en Ukraine, qui sont à Kiev. Mais le problème, c'est que c'était la façon de jouer klezmer autour de Kiev, donc en Ukraine, mais c'est pas du tout pareil qu'en Roumanie, où c'est un klezmer qui est avec les influences turques. Enfin voilà, donc tout ça, disons que je suis amené un peu à prendre la parole, mais plus comme combattant de l'émotion yiddish klezmer européenne contre le divertissement, on est tous frères, tous sœurs, on danse et c'est la fête. Non, non, c'est aussi la fête, mais d'abord, rappelons-nous ce qui s'est passé.
Alors l'émotion, elle passe dans ce qui fait votre actualité, c'est la sortie de cet album, 40 ans de klezmer et d'amitié, dédicace. Denis Cugno joue Nano Pellet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce titre qui est un peu long? Est-ce que vous avez rompu avec ce musicien et vous avez renoué? Est-ce qu'il y a une continuité? Pourquoi choisir de jouer ces interprétations aujourd'hui?
Ah, d'abord parce que c'est un ami, c'est lui, c'est grâce à lui que j'ai eu accès à cette musique instrumentale qu'on n'a pas défini. On a commencé en 1983, on savait pas, on a mis quelques, on savait pas comment la nommer. Ça a été, et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai nommé à un moment donné avec Nano, on l'a nommé Klezmer, musique des Klezmorim et de leurs descendants. Donc, je me suis trouvé piégé par rapport à ce que je viens de vous dire. Non, Nano, donc, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été, dès 86, il a été très pris par le groupe Bratsch, où il était le clarinettiste du groupe de musique tzigane, européenne, grecque, enfin, de tout le Balkan et donc on s'est jamais perdu de vue, mais c'est-à-dire que donc j'avais dans mon répertoire, on a fait 3 disques en duo, j'avais des morceaux de Nano écrits pour piano clarinette que j'ai commencé comme ça pour pas m'amuser, mais dans mon travail quotidien de transcrire pour piano solo. Et puis Nano, il est tombé malade, il peut plus jouer de la clarinette là depuis une dizaine d'années, et donc il s'est mis à composer de plus en plus, et donc j'ai passé commande. Donc c'était l'histoire d'amitié, mais ça c'est le sticker 40 ans d'amitié de Klezmer, c'est mon éditeur Buda Musique, Gilles Fruchot, qui l'a mis. Mais le disque, ça s'appelle Dédicace, et c'est Denis Cugno plays Nano Pellet, et de fait, effectivement, c'est parce qu'il peut plus jouer de clarinette qu'on a été amené à monter ce... Enfin, qu'il m'a écrit ses partitions de piano. Et puis là, il y a le recueil des partitions qui vient de sortir là, chez les éditions musicales Clarté, K-L-A-R-T-H-E. Et donc, c'est formidable parce maintenant, ça va pouvoir être joué, ces morceaux, par quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire faire vivre, et ça, je vais m'en occuper justement par mon réseau de conservatoires pour que ça devienne, par exemple, des morceaux de concours dans certains conservatoires. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que seul et peut-être avec Nano Pellet et vos autres comparses, vous êtes l'initiateur du renouveau, de la renaissance de la musique yiddish en France? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul. Est-ce que vous êtes le précurseur?
Je suis précurseur, mais pas du renouveau, puisqu'elle n'existait pas en France. Donc je suis le précurseur, ça clairement, ma génération et moi en tête avec dès 83, on a mis en place qu'il pouvait exister une musique yiddish ou klezmer en France.
Donc de la découverte.
Oui, mais plus que des... Oui, de la découverte et de la réinvention.
D'accord.
Puisque, vous savez, c'est toute la dialectique tradition, modernité, héritage, création. Et donc là, on s'est retrouvé effectivement... Elle a été détruite, cette musique. Et qu'est-ce qu'elle aurait pu devenir si elle n'avait pas été détruite? Donc elle aurait été vers la modernité, vers diverses formes de modernité. Moi, c'est une forme plutôt musique de chambre. Et puis après, il y a des formes compris électro ou fanfare ou sirba octet, 8, enfin, c'est-à-dire maintenant, moi je suis très content parce que je voulais qu'elle existe, comme j'avais écrit dans le premier disque, comme le jazz, c'est-à-dire que ça devienne une musique, voilà, le jazz au départ c'est vraiment issu du blues, des descendants d'esclaves, de la douleur afro-américaine, et c'est devenu vraiment une musique dans le monde entier, blanc, jaune, etc. Donc moi j'avais cette utopie qui est en train de se réaliser sur les musiques yiddish et les musiques dites klezmer. Le problème, c'est que, justement, avec les Américains, les trucs, il y a, par exemple, un musicien français ou japonais qui se met à faire du jazz, il sait que c'est issu des champs de travaux, de l'esclavage, qu'il y a une douleur. Et je ne suis pas sûr, avec ces Américains, que tous ces musiciens non-juifs qui se mettent à faire du klezmer, et qui ont comme référence un peu la fête, la fanfare, la fanfouille, et donc ça me manque. Et ça, c'est un peu pour ça que je prends la parole parfois, c'est pour redire, attendez... Ça vient quand même d'un peuple qui souffrait énormément.
Alors justement, je vais vous citer. Vous avez dit ou écrit « Comment faire du neuf avec du vieux? Les musiques traditionnelles sont-elles condamnées à être anciennes? Ne pourrait-on pas composer de la musique vieille tout de suite, faire du neuf avec du vieux, du neuf avec du neuf, mais aussi du vieux avec du neuf? Aujourd'hui, je lui ai demandé de nouveau de me composer des œuvres et de m'offrir quelques arrangements, ce disque. » Donc c'est ce que vous dites de Nano Pellet. Est-ce que c'est ça, finalement, votre signature? Réinventer un passé qui n'existe plus avec des réinterprétations, des reprises, des créations qui, finalement, non seulement remodernisent la musique klezmer traditionnelle, mais lui donnent une nouvelle signature?
Oui, c'est exactement ça.
Et alors, est-ce que d'autres que vous le font aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'en France, cette musique qui est découverte, redécouverte, ont aussi cette signature ?
Oui, oui, ça dépend qui, ça dépend de, c'est encore une question de, d'émotion et de référence. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, bon, un musicien américain que j'aime bien, qui trouve grâce à mes yeux, parce que justement, il a pris le risque de la créativité, c'est David Krakauer. Mais David Krakauer, quand il arrive en France en 99, à partir de là, il y a une jeune génération de musiciens français qui vont s'identifier à lui. Et donc, en fait, cette référence à Gyula Feynman, que j'ai avec Nano Pelé, que j'ai avec Yom, que j'ai maintenant avec Yannick Tepo, où j'ai fait un nouveau duo piano-clarinette avec Yannick, qui lui a une dizaine d'années de moins que moi, elle est permanente à Gyula. Mais quand des jeunes musiciens français se mettent à faire klezmer, mais leur référence c'est les États-Unis, il y a quelque chose qui ne va pas, même si ces jeunes musiciens sont juifs. Donc on a fait, par exemple, on avait fait une table ronde au centre MEDEM là, il y a quelques mois avec cette nouvelle génération, c'était très intéressant. Mais ils ont découvert des choses, d'entre autres de ce que je disais, qu'ils connaissaient par moi, mais ils n'avaient pas vraiment entendu ce que ça voulait dire. Quoi. Non, après, il y a des portes, là je joue avec un merveilleux musicien violoniste, Guillaume Detmar, qui est à Orléans. Et Guillaume, il a toute cette sensibilité alors, au violon, que ce soit au violon électrique. Donc en fait, de toute façon, moi je m'entoure de gens, dans mes partenaires obligatoirement, qui ont cette sensibilité. Et donc dans toute la relève, avec Marine Goldwasser, Marine a beaucoup de talent, mais elle a aussi toutes ses références aux musiques tziganes, roumaines, ce qui fait qu'elle fait un mélange tout à fait intéressant. Mais voilà, il n'y a pas... je dis, ce qui est radical, c'est le rapport... ou le non-rapport à Gyula Feynman, au niveau émotionnel.
Alors sur cet album, il y a 13 titres, ouais. Hein, je crois, c'est bien ça. Quand on a été bercé, comme moi, je vais vous dire des choses peut-être intimes, par des chants, par des mots, par une langue yiddish, eh bien dans les titres ou dans les sonorités, eh bien on a accès à cette émotion, alors que c'est un langage musical. Est-ce que vous aussi, dans les chants, dans votre enfance, alors c'est peut-être intime la question que je vous pose, eh bien vous connaissiez de la musique traditionnelle yiddish ?
Oui, ma mère, elle a chanté des berceuses, ouais. Mais maintenant, c'est drôle, bon, grâce à Dieu, elle est encore en vie, à 94 ans, mais je la taquine parce que quand maintenant je connais les paroles des berceuses, je me dis, mais t'es folle, parce qu'en fait, je ne pouvais pas dormir, c'est pour ça que je suis devenu insomniaque, parce que c'est absolument tragique, la moindre berceuse, tout le monde meurt, l'oiseau, enfin. Et donc, elle me chantait des chansons dont maintenant je connais les paroles. Et quand je dis à ma mère, qui, elle, avait parlé yiddish, et ça venait de Pologne, mais quand je dis à ma mère, mais pourquoi tu me chantais ça ? Elle me dit, en toute mensonge, elle me dit, ah non, mais je connaissais pas les paroles. Mais en fait, bon, oui, oui. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, j'avais un peu ces berceuses, pas plus, et puis ma mère, c'était l'intégration, l'assimilation à la française d'après-guerre, enfin, avec tout ce qui était arrivé. Donc il y avait ni yiddish, ni même cette culture...
Mais à vous écouter, il y a vraiment ce langage musical qu'on devine quand on connaît ces chants. Alors, évidemment, quand on regarde les titres de l'album, c'est un peu plus parlant. Mais est-ce que, pour vous, c'est un choix conscient ou inconscient d'être totalement inspiré d'un langage verbal dans une musique qu'on entend ?
Oui, il y a les deux. Il y a quand même l'inspiration par la musique elle-même, par le souvenir de certains interprètes. L'émotion permanente, il y a des chitames, les odeurs et les parfums, et aussi effectivement les mots qui ne sont pas prononcés, parce qu'effectivement c'est pas des nigunims, c'est en fait d'une certaine façon c'est des mélodies sans paroles, mais
parce que 13, bon, c'est un chiffre sans doute arbitraire. Est-ce que c'est difficile d'arriver à 13? Est-ce que vous en avez enlevé certains? Est-ce que pour vous, il y avait des évidences? Comment on choisit en fait 13 titres sur un album?
Non, mais parce que Nano Pellet est complètement obsédé par le chiffre 13.
D'accord, tout simplement.
Donc, il est né le 13-4-1952, 13x4 fait 52, le 13 avril. Et bon, comme il faisait pas mal de maths et de spiritualité, bon, il s'est fait une petite... Kabbal à lui tout seul autour de 13, et c'est complètement délirant, c'est le chiffre 13 est vraiment... Donc comme moi je joue Nano Pelec, il était là à l'enregistrement, c'était hors de question, ce qui n'est pas autre chose que 13 titres, mais ça c'est pas moi, c'est le compositeur.
Ah, est-ce que vous percevez qu'il y a une différence par rapport à d'autres genres musicaux ? Alors on l'associe souvent au jazz, le klezmer, mais quand on vous écoute, on sent qu'il y a à la fois beaucoup de légèreté... Et en même temps, de la rapidité, peut-être aussi un peu de gravité.
Les trompettes en particulier, les instruments sonores sont arrivés. Donc, quand on dit le klezmer, c'était comme ça à partir des premiers enregistrements, mais non, parce que c'était d'abord les cordes. Mais les cordes, on ne savait pas les enregistrer. Ça ne sonnait pas. Et donc là est arrivé effectivement un nouvel instrument roi de la musique klezmer, qui est la clarinette. Mais en fait, initialement en Europe, donc c'est, oui, c'est les violons et l'accompagnement, bah, une contrebasse, une guitare, l'accordéon dans le klezmer russe, parce qu'effectivement, dans le klezmer russe, il y a de la balalaïka, il y a aussi les instruments qui permettent de jouer la musique traditionnelle du pays, parce que les mecs, il faut qu'ils gagnent leur vie, ils la gagnent pas simplement avec les mariages juifs, puisque, enfin, je veux dire, les klezmorim.
Oui.
Donc, en gros, sur l'instrumentation...
Alors, comment vous levez-vous la difficulté de passer au piano?
Ça, c'est terrible, parce que c'est pas l'instrument de ça, et puis surtout, le piano, c'est un instrument percussif, c'est pas l'instrument où on a le souffle de la clarinette... qui peut être très long pour faire des phrases très imitant la voix humaine. Là. Et puis, il n'y a pas l'archet du violon avec le vibrato qui donne une émotion terrible. Donc, c'est ça le challenge, voire l'hétérodoxie de ma démarche. C'est-à-dire que le piano n'avait pas existé là-dedans. Sauf que le piano, c'est un instrument universel et que j'avais dans ce devoir, dans ce travail de mémoire, et la possibilité de... Alors, c'est, en fait, il y a un vrai travail technique, parce que, justement, comment on peut imiter une phrase longue, un archet au piano, etc. Mais évidemment, c'est une des clés et un des challenges.
Et c'est pour ça aussi que c'est une redécouverte. Quand on vous écoute, c'est évidemment inspiré de quelque chose, mais ça devient autre chose.
Oui.
Alors, c'est peut-être une impression. Alors, aujourd'hui, hein, vous balayez en brèche des tas de présupposés qu'on a pu avoir, mais l'impression que la musique klezmer plaît beaucoup aux mélomanes, mais aux amateurs aussi. Est-ce que c'est une réalité ou pas du tout?
Non, elle est très peu connue en vérité.
Très peu connue.
C'est-à-dire que nous, dans nos milieux... Bah, de toute façon, moi, quand j'ai commencé avec Nano, dans les milieux, il y avait... Dans les centres communautaires juifs à Paris, il y avait encore des yiddishistes de 70, 75 ans, enfin, qui avaient survécu, hein, et ils disaient qu'ils n'avaient jamais entendu cette musique, qu'ils ne connaissaient pas. Que ce soit... Alors après, 10 ans après, ils nous disaient « Ah, on connaît... » Les mêmes, hein. « Non, non, on connaît cette musique, mais c'était pas joué tout à fait comme ça. » Et 20 ans après, les mêmes disaient « Ah, j'ai pleuré, c'est exactement cette musique que j'écoutais quand j'étais petit. » Vous voyez le témoignage, hein, vous qui êtes historienne, vous savez l'article 1 dans la méthodologie, c'est se méfier des témoignages. Hein. Okay. Moi, j'ai vécu sur 20 ans les mêmes qui sont partis de « Non, on n'a jamais entendu. Hein. »« Ah, non, ça ne jouait pas comme ça. » Ah ouais, c'est exactement ça, ça vous m'avez rappelé mon père. Enfin bon, c'est une charge. Hein. Mais donc, donc, dans le milieu... je dirais vraiment juif, que ce soit orientaux ou européens, maintenant cette musique est connue. Au-delà de ça, il y a quelques... D'abord, c'est une musique tellement plus simple que le jazz, donc les jazzmen n'aiment pas cette musique. Les musiciens classiques ou les mélomanes classiques, ceux qui aiment et celles qui aiment l'opéra, les quatuors à cordes, sont pas passionnés. Alors moi, je suis un peu la passerelle, justement, c'est aussi ça que j'essaie avec cet instrument et tout, mais non, cette musique a progressé en émotion, en connaissance dans la communauté, les communautés juives en France, mais ça a pas... Ce qui se passe, par contre, c'est qu'il y a des fanfares, il y a des pratiques amateurs. Moi, j'en ai dirigé une, la fanfare klezmer dite de France, qui maintenant s'appelle Kif Orchestra, qu'on a créée en 2005. Alors là, des musiciens, il y en a 2 ou 3 juifs ou de confession israélite, mais autrement, c'est vraiment des amoureux et des amoureuses de musique et de musique populaire, et là, qui sont pris de passion pour le klezmer. Mon copain Guillaume Detmar, au conservatoire d'Orléans, il dirige un atelier où il y a plus de 50 mômes, donc dans le conservatoire classique de musique, il fait beaucoup de musique yiddish et klezmer. Ça avance un peu, mais c'est pas... Quand vous parlez à des mélomanes qui connaissent rien au judaïsme, tu connais la musique klezmer, bah vous allez voir, 9 sur 10, jamais entendu parler.
D'où le rôle que vous avez à jouer, finalement, ouais, de servir de passerelle, de pont, comme vous le dites.
Ouais, ouais.
Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Denis Cugnot, qui nous parle de la... parution de son dernier album, Dédicace, Denis Cugnot plays Nano Pellet. Alors, évidemment, il y a énormément de questions, hein, qui se précipitent par rapport à la musique klezmer en particulier et votre album aussi. Vous nous avez bien expliqué cette différence entre les États-Unis et la France. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une particularité de la musique klezmer interprétée par les rares musiciens qui la pratiquent et aux États-Unis? Alors, je lance comme ça une idée. Aux États-Unis, cette musique peut être réinterprétée dans tous les genres. Le jazz, mais on a entendu aussi un peu de reggae. Parfois, il y a même des sonorités arabisante. Est-ce que pour vous, c'est toujours du klezmer?
Oui, dès l'instant qu'il y a... Là, pour le coup, dès l'instant qu'il y a l'âme, qu'il y a une compréhension intime et la sensibilité, oui. Oui, oui, ça, ça peut être, que ce soit en électro, en reggae, ça, j'ai pas de souci. De la sorte qu'il y a sincérité, qu'il y a l'âme d'enfant qui reste.
Oui.
Il n'y a pas de problème de... Ce que j'avais écrit, hein, je veux dire que ce soit en fanfare, en musique de chambre, en électro, en pop, dès l'instant qu'il y a la connaissance de ce que c'était.
Est-ce que ce n'est pas plus classique en France, chez ceux qui la réinterprètent? On a l'impression que la nostalgie est quand même plus présente.
Oui. Plus classique, oui, parce qu'il y a moins d'aventures. Il y a Yom qui est avant. Maintenant, il n'est plus du tout sur ses musiques. Il y a Yom qui avait aussi tenté des développements électro, danse là-dessus. Mais bon, maintenant, il est vraiment dans le recueillement, dans la spiritualité. Puis il n'est plus en référence au klezmer. Mais c'est vrai qu'en France, oui, il n'y a pas. Mais parce qu'il n'y a pas tellement de groupes, en fait. Enfin, on les connaît tous.
Ouais. Bon,
c'est pas énorme, même en termes de musiciens professionnels. Mais vous avez complètement raison, Sandrine. Oui, il y a un côté plus classique, les instruments, c'est vraiment... Oui, violon, clarinette, c'est propre, mais c'est bien.
Alors, vous citez le terme musicien professionnel, c'est votre métier, la musique. Est-ce que c'est le registre que vous jouez le plus, le klezmer?
Moi?
Oui.
Ah oui, c'est une idée fixe.
C'est une idée fixe.
Oui, c'est vraiment... Bon, il y a un proverbe yiddish qui dit l'idée fixe est la plus grave des maladies.
Hein, et vous jouez pour n'importe quel public?
Oui, bien sûr. Ça, par contre, ça, c'est le plus important, c'est d'être justement programmé dans les festivals de musique du monde ou des festivals de jazz où on a affaire à un public qui n'est pas communautaire.
Et comment est-il perçu, alors, ce répertoire?
Bien.
Oui.
Oui. Mais sur le piano solo, c'est plus difficile parce que là, c'est vraiment une double austérité, quoi. La musique n'est pas connue et au piano solo, il n'y a pas justement, je dirais, le violon, la performance de la clarinette. C'est un peu. Non, ça va. Mais c'est-à-dire, dès l'instant qu'on nous autorise à jouer, dès l'instant qu'on nous programme devant des publics, mais ça, c'était pareil avec le quartet de Yom en 2007-2010, les gens sont très touchés. Surtout qu'on leur donne, que ce soit Yom ou moi, on parlait un peu sur scène, donc on donne quelques clés sur le peuple qui a disparu, le peuple assassiné. Et que c'est la musique, c'était une des musiques du peuple assassiné.
Donc réellement un messager.
Ouais.
Alors c'est un album que je trouve formidable, mais je me pose la question, quand vous interprétez ces morceaux, est-ce que vous pensez à la cible? Vous pensez à qui va l'écouter? En quelque sorte, pour vous, à qui s'adresse cet album? Aux nostalgiques de cette musique, à ceux qui la connaissent pas, aux amateurs de musique juive en général, ceux qui aiment la bonne musique classique. Et puis on en revient à cette idée finalement d'universalité à la fois de cette musique klezmer, mais aussi de la musique en général.
Oui, non, c'est tout à fait ça. Et après, dans ce travail quotidien, je cherche à être au plus profond, comme quand on joue une sonate de Mozart ou de Beethoven, au plus profond de ma sensibilité, de ma vision. C'est le même travail que sur un répertoire classique, c'est comment être le plus sincère et le plus... de tenter diverses interprétations dans mon travail pour voir laquelle, sur une chanson yiddish, ou un air klezmer, un air instrumental, comme je les travaille tous les jours comme des standards de jazz, comme si ce sont mes standards, et de voir divers éclairages pour que je choisisse... Tiens, mais en fait, là, sur cette année, avec où j'en suis, j'ai envie de le jouer comme ça. Ça va être des questions de tempo, ça va être des questions de nuances. Donc en fait, ouais, quand je travaille, je pense à tout ce que vous avez dit, à la fois la famille, la communauté, les mélomanes classiques, mais surtout à être le plus intense. Hein. Je cherche...
Alors justement, parce que quand on vous écoute, on sent cette intensité. Est-ce que pour vous, c'est cathartique, c'est une sorte de réparation, non seulement de ce qui s'est passé pour le peuple juif, peut-être pour votre histoire familiale aussi?
Oui, de tout ça, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a un rapport à la spiritualité. Peut-être à l'absence, mais oui, à la réparation, bien sûr. Oui, l'absence, l'interrogation, oui. Oui.
Alors, vous nous avez dit un mot, hein. L'actualité, elle est double, puisqu'il y a les partitions aussi qui peuvent être... alors, on peut les acheter où? Un peu partout?
C'est-à-dire qu'il faut aller sur le site de l'éditeur. Là, elles ne sont pas encore distribuées en dehors dans les boutiques de musique ou rue de Rome. Non. Le site de l'éditeur Clarté, Clarthe, il y a deux façons de se procurer, ou en téléchargement PDF, ou en format papier.
Voilà, et puis cet album qu'on peut se procurer partout.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des concerts qui sont en prévision, qu'on pourrait annoncer?
À la rentrée, oui. De toute façon, j'ai encore la chance là, d'être de nouveau programmé dans le festival Jazz and Klezmer, là, où j'ai joué donc, au New Morning le 13 novembre. Je fais des choses en septembre. J'essaie de jouer en province l'album à Grenoble, Marseille. Tout ça n'est pas calé, mais ça va se caler. Et puis j'ai de nouveau, c'est dans ma folie de l'idée fixe, de remonter une forme longue de 8 à 9 heures, que j'avais intitulée il y a 10 ans Raga Klezmer. Là. Et voilà, donc avec pas mal de partenaires. Et là, je vais... moi, je resterai au piano 8-9 heures. Et mes partenaires à 2, 3, 5 changeront. Et le public n'est pas pris en otage. Il faut trouver un lieu où il peut sortir, manger, parler. Moi, là, j'ai besoin de ce temps long pour raconter tous mes klezmers à moi, toute ma sensibilité. Donc ça, je vais créer ça au printemps prochain. Je vais retravailler sur des textes avec un comédien. Enfin, je n'arrête pas. Là, je dirais que j'ai 4-5 projets créatifs nouveaux. Mais après, il faut trouver l'économie de ça. Mais au niveau des idées, ça va, j'en ai.
Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de se procurer votre album, qu'est-ce que vous leur diriez?
Ah. Non, mais soyez gentils avec moi, procurez-vous l'album. Non, il y a un très beau son. Il y a un très très beau son de piano. Il y a des ballades. Les ballades, je pense qu'elles, en particulier les deux premiers morceaux, elles sont irrésistibles d'émotions, elles sont tranquilles, elles sont pleines de tendresse. Et puis il y a aussi des morceaux plus rugueux dans l'écriture du compositeur, je dirais un peu plus moderne. Donc en gros, ça va. Il y en a pour tous les goûts. Il y a ceux. Voilà, sont au premier degré, la sensibilité des ballades douces, profondes. Et puis pour les mélomanes avertis, il y a quelques morceaux assez virtuoses par le pianiste, mais surtout dans l'écriture, et un peu presque qui s'apparente à la musique contemporaine. Donc voilà, vous pouvez couper dedans, acheter que les morceaux doux, acheter que les morceaux rugueux.
Alors on va se quitter dans un instant avec Yiddish Figele. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, là ça fait la petite fugue. C'est-à-dire que la Nanopele a fait une sorte de démarcation, d'hommage, de clin d'œil à Jean-Sébastien Bach, une fugue, et donc a fait la petite fugue. Et donc c'est vraiment une création complète, mais inspirée par le maître de la fugue qui était Jean-Sébastien Bach.
Merci infiniment, Denis, pour ce voyage, parce qu'on a appris beaucoup de choses sur cette histoire de la musique klezmer en France et en comparaison avec les États-Unis. Il faut dire, il faut insister, l'album est vraiment remarquable. Je vous conseille de l'acheter pour vous et de l'offrir. Parfois, on est invité à dîner, on ne sait pas quoi acheter, plutôt qu'un bouquet de fleurs. Un joli album de musique klezmer, c'est prodigieux, ça détend, ça nous plonge dans un passé malheureusement qui n'existe plus et qui le fait revivre. Donc, dédicace, Denis Cugnoplé, Nanopellet, vraiment à acheter et à recommander. Et l'émission est terminée, c'est passé très vite, et puis on vous dit bonsoir et à très bientôt.
Bonsoir Sandrine, merci beaucoup de l'accueil, et merci à la Radio Shalom de l'accueil. Et vous pouvez faire à la fois le bouquet de fleurs et mon disque, c'est encore mieux.
Voilà, et on se quitte donc avec Yiddish Figele.